Voici le journal présenté par Olivia Cohen. Bonjour Olivia.
Bonjour Benoît, bonjour à toutes et à tous. La mobilisation anti-réforme des retraites ne faiblit pas. Nous en sommes au 26e jour. Quelle suite donner au mouvement à la raffinerie de Grandpuy, près de Paris? Un vote crucial. Aujourd'hui, les salariés se prononcent sur la poursuite ou non du blocage. Dans ce contexte, quel vœu le président Emmanuel Macron peut-il souhaiter aux Français demain soir? Élément de réponse dans ce journal avec un historien spécialiste des conflits sociaux. Un nouvel an qui risque d'être gâché en Australie. Les autorités redoutent de nouveaux incendies à cause d'une vague de chaleur. Des touristes sont invités à évacuer le sud du pays. Et puis en France, la polémique autour de Gabriel Matzneff ne faiblit pas. Le ministre de la Culture, Franck Riester, fait part de son soutien aux victimes de l'écrivain adepte de pratiques pédophiles. Et puis la question du jour, Benoît.
On parlera de cette loi adoptée mi-décembre en Inde, le Citizenship Amendment Act, ou loi sur la citoyenneté, perçue comme discriminatoire envers les musulmans et qui provoque le plus important mouvement de contestation qu'ait connu le pays depuis l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi en 2014. Nous serons avec Charlotte Thomas tout à l'heure, coordinatrice du programme Asie du Sud du collectif de chercheurs Noria, spécialiste des minorités musulmanes en Inde.
26e journée de grève aujourd'hui contre la réforme des retraites. Journée cruciale à la raffinerie de Grandpuy en Seine-et-Marne, près de Paris. Les salariés votent pour ou contre la poursuite du blocage des expéditions. Des salariés divisés face aux pressions de la direction, Sarah Lemoine.
C'est une assemblée générale décisive qui se tient aujourd'hui à Grandpuy, la seule raffinerie du groupe Total en Île-de-France. Les salariés vont devoir décider s'ils maintiennent le blocage complet des expéditions voté il y a une semaine par une poignée d'entre eux. Si c'est le cas, la direction sera obligée cette fois d'enclencher la procédure d'arrêt pour empêcher les cuves de déborder. C'est ce que souhaite la CGT qui vise à terme la paralysie d'un maximum de raffineries. Mais là où les choses se compliquent, c'est que le groupe Total fait pression sur les salariés. La semaine dernière, le patron du raffinage Europe, Michel Charton, a fait passer un message très clair, confirme la direction. Si la procédure d'arrêt est enclenchée, Grandpuy s'arrêtera alors pour une période indéterminée et les salariés se retrouveront au chômage technique. Un chantage qui vise à faire peur, dénonce le coordinateur CGT Total, mais qui pourrait fonctionner. Les salariés sont divisés, confirme-t-il, entre ceux qui veulent aller jusqu'au bout et ceux qui craignent pour leur avenir.
Et les négociations doivent reprendre dans une semaine, le 7 janvier. Dans le journal du dimanche hier, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, accuse le gouvernement d'organiser, je cite, le bordel et de miser sur le pourrissement du mouvement. Nous sommes à quelques heures des vœux télévisés du président Emmanuel Macron pour la nouvelle année. Sa prise de parole s'annonce délicate. C'est en tout cas l'analyse de Stéphane Sirot. Il est historien spécialiste des syndicats et des conflits sociaux.
Emmanuel Macron, il est dans une situation qui ressemble un peu à la quadrature du cercle. Il lui est compliqué d'annoncer d'une manière ou d'une autre que la réforme va être mise à plat, que pour le moment elle est suspendue et qu'il décide pour un temps d'y renoncer. On voit difficilement comment il pourrait prendre ce chemin parce que ça apparaîtrait de toute évidence comme une défaite pour lui et un désaveu pour son premier ministre et une partie des électeurs qui le soutiennent. D'un autre côté, adopter la posture qui serait celle d'un pouvoir jusqu'au boutiste, c'est aussi quelque chose qui va être difficile à tenir parce que vis-à-vis de l'opinion publique qui pour le moment continue d'avoir une sympathie pour le mouvement de grève, là aussi ce serait assez compliqué à gérer de sortir de ses vœux en donnant l'impression qu'il ne veut rien céder, rien entendre. Le seul chemin qui me paraît possible, c'est de revenir sur la question de ce fameux âge pivot, de manière à laisser penser que des adaptations seraient possibles de ce côté-là. Je vois difficilement quel pourrait être l'autre chemin adopté par Emmanuel Macron.
Stéphane Sirot, historien spécialiste des syndicats et des conflits sociaux, joint par Stéphane Genest. Dans les gares aujourd'hui, toujours de fortes perturbations, même si la situation s'améliore en Île-de-France. Seules deux lignes de métro fermées. À la SNCF, prévoyez un TGV et un Ouigo sur deux pour les TER. 4 liaisons sur 10 sont assurées et 40% des intercités circulent. Washington recense 19 combattants tués au lendemain de frappes américaines en Irak et en Syrie. Des frappes contre 5 bases qui appartiennent à l'une des factions pro-Iran, le Hezbollah. En guise de représailles après la mort d'un citoyen américain dans une attaque à la roquette, le chef du Pentagone se félicite de ces frappes. Nous mènerons des actions supplémentaires si nécessaire, déclare-t-il, pour dissuader l'Iran et les milices. Les États-Unis annoncent également la mort de 4 terroristes lors de frappes en Somalie menées contre les miliciens islamistes Shebab après un attentat à la voiture piégée qui a fait au moins 79 morts dans la capitale Mogadiscio. Et puis après cette attaque dans la résidence d'un rabbin à Muncie près de New York, un suspect de 37 ans inculpé pour tentative d'homicide, une attaque à l'arme blanche survenue samedi soir lors d'une fête religieuse juive. Donald Trump, le président, appelle à éradiquer, je cite, le fléau de l'antisémitisme. Au total, 5 blessés hospitalisés. Une nouvelle manifestation contre la politique de George Weah aujourd'hui à Monrovia. 2 ans après son élection, le président libérien contesté par une partie de sa population. Il est reproché à l'ancien footballeur Ballon d'Or en 1995 de ne rien faire pour améliorer les conditions de vie des citoyens et sortir le pays de la corruption. En Australie, des touristes pourraient voir leur nouvel an perturbé. Dans le sud-est, 30 000 personnes invitées à évacuer le secteur. La faute aux incendies qui pourraient redoubler d'intensité en raison d'une nouvelle vague de chaleur. À Sydney, les précisions de Grégory Pless.
Après quelques jours de répit, les risques d'incendie ont de nouveau atteint leur niveau maximal en Australie. C'est particulièrement vrai dans le sud-est du pays, où les autorités viennent d'appeler la population à évacuer une région très touristique, où se trouveraient actuellement 30 000 personnes, puisqu'en ce moment, c'est les grandes vacances en Australie. D'après les premiers retours, leurs consignes sont assez peu suivies, les policiers sur place constatant un très faible trafic automobile, signe que les gens se trouvant dans la région ont décidé d'y rester, malgré les risques. Plus au nord, dans la plus grande ville du pays, Sydney, c'est surtout le vent de la polémique qui agite les esprits. Plus de 270 000 personnes ont signé une pétition en ligne réclamant l'annulation du célèbre feu d'artifice du Nouvel An, qui est vu chaque année par plus d'un milliard de téléspectateurs à travers le monde. Les élus de la ville ont néanmoins décidé de le maintenir, car cet événement attire chaque année à Sydney des milliers de visiteurs et génère plus de 80 millions d'euros de recettes touristiques.
Grégory Pless, une centaine de feux sont toujours actifs ce matin en Australie, dont une quarantaine non maîtrisés. En France, la situation de 2 chercheurs français détenus en Iran fait polémique. Arrêtés en juin, l'anthropologue franco-iranienne Fariba Adelka et le chercheur diplômé en mathématiques et sciences sociales Roland Marchal, sont accusés d'espionnage. La chercheuse en grève de la faim depuis une semaine. En France, le Quai d'Orsay a bien convoqué l'ambassadeur iranien à Paris. Téhéran, lui, dénonce une ingérence dans ses affaires intérieures. Une façon de gagner du temps, selon Olivier Roy. Il est membre de l'Institut européen universitaire de Florence et membre du comité de soutien des 2 chercheurs.
Je crois que c'est une réaction du ministère iranien des Affaires étrangères, hein, qui tente de gagner du temps. Donc, ils répondent à la convocation de l'ambassadeur d'Iran en France. Les Iraniens, eux, jouent sur le fait qu'Adelra a la double nationalité pour dire que ça ne regarde pas les Français. Par contre, ils sont complètement silencieux sur le statut de Roland Marchal, qui, lui, est français. Donc, ils essaient de faire une différence entre les deux, bien entendu. Et pour le moment, c'est bloqué parce que les Iraniens disent aux Français que ça ne les regarde pas. Ce sont 2 collègues, je les connais depuis longtemps. On travaille ensemble, ils ne sont pas du tout mêlés à des histoires d'espionnage, parce qu'en fait, on est dans un jeu de marchandage entre les gardiens de la Révolution, essentiellement, et le gouvernement français. Il se trouve qu'il y a 2 Iraniens accusés d'un de terrorisme, et puis l'autre d'espionnage par les Américains, d'ailleurs, ce qui n'a rien à voir avec les Français. Enfin, il y en a un qui est arrêté en France. La faction dure du régime, tout simplement, fait du chantage pour la libération de ses agents. C'est une affaire assez sordide, dans le fond. C'est pas du tout une grande affaire politique.
Olivier Roy, membre du comité de soutien aux 2 chercheurs, il répond à Nadine Epstein. Si vous aviez prévu d'aller fêter le nouvel an en Espagne en voiture, sachez que l'autoroute est gratuite à partir du 1er janvier sur 2 tronçons importants. Les concessions autoroutières ne sont pas renouvelées. Concernant l'autoroute des vacances, c'est son surnom, elle relie Tarragone, Valence et Alicante. Également sur la portion entre Séville et Cadix, cette gratuité fait débat chez nos voisins, Marie-Hélène Ballestero.
En tout, ce sont 468 km d'autoroutes qui vont devenir gratuits à partir de mercredi prochain. Une mesure qui ravit bien sûr les usagers, les automobilistes, tout comme les associations patronales du transport routier. Tous font leurs calculs et espèrent économiser une bonne quantité d'argent. Par exemple, 46 euros pour les automobilistes et 63 euros pour les camions qui font le trajet Tarragone-Alicante. Au contraire, les concessionnaires sont sceptiques et critiques, ainsi que les experts en infrastructure routière qui s'interrogent sur la gratuité des autoroutes, la viabilité de ce système et les coûts de maintenance élevés qui vont être pris en charge désormais par l'État espagnol. Un débat qui reste ouvert en Espagne où moins de 20% du réseau autoroutier est payant. Quant au gouvernement, il s'interroge également sur la durabilité de ce réseau. À tel point qu'en août dernier, le ministre de l'Équipement, José Luis Ábalos, a évoqué la possibilité d'instaurer un paiement symbolique pour les usagers des autoroutes gratuites. À terme, l'exécutif souhaite parvenir à un réseau autoroutier cohérent et égalitaire pour toutes les régions espagnoles, car actuellement, certaines disposent d'un grand nombre de kilomètres d'autoroutes gratuites et d'autres quasiment pas, comme en Catalogne. Une énième revendication des indépendantistes catalans.
Des précisions de notre correspondante Marie-Hélène Balestero.
C'est le journal d'Olivia Cohen. Olivia, la polémique continue et enfle autour de Gabriel Matzneff.
Et oui, c'est au tour du ministre de la Culture, Franck Riester, de réagir et d'apporter son soutien aux victimes de l'écrivain adepte de pratiques pédophiles. À l'origine de cette polémique, le témoignage de l'éditrice Vanessa Spingora dans un récit intitulé « Le consentement » qui sort dans 4 jours. Stéphane Capron.
Le monde de l'édition est en train de connaître son affaire Polanski. Les révélations de Vanessa Spingora sur l'attitude de Gabriel Matzneff lorsqu'elle avait 14 ans continuent de faire l'effet d'une bombe. Les remous provoqués par la sortie de son livre ont conduit Franck Riester à sortir du silence ce week-end. L'aura littéraire n'est pas une garantie d'impunité, écrit le ministre de la Culture dans un tweet en apportant son soutien à toutes les victimes qui ont le courage de briser le silence. Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, affirmé dans le JDD avoir demandé à ses services d'étudier quelles suites judiciaires pouvaient être envisagées à l'encontre de Gabriel Matzneff. Franck Riester demande de son côté au Centre National du Livre de se pencher sur la situation du romancier. Le CNL verse à certains écrivains une allocation pour compenser les difficultés financières liées au grand âge ou à la maladie, écrit le ministre de la Culture, qui demande au CNL de lui fournir toutes les précisions sur cette situation.
Gabriel Matzneff, lui, est sorti de son silence ce week-end. Il dénonce des attaques injustes et excessives. La météo, ce sera une belle journée avec du soleil un peu partout en France. Quelques brumes en matinée de la pointe Bretagne aux Landes jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté. Des températures nettement supérieures aux normes de saison. Ce matin, 1 degré à Strasbourg et puis jusqu'à 15 degrés à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Vous écoutez France Culture, oui. Et la matinale, c'est avec vous, Benoît Bousquerel.
Exactement. Merci, Olivia Cohen, et à tout à l'heure.